Bonjour, au micro Idrissa Sedoulia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Les voisins du Mali ont demandé mardi que la junte au pouvoir à Bamako nomme incessamment des dirigeants civils de transition, faisant miroiter une levée possible dans quelques jours des sanctions imposées au pays en crise. Dans leur communiqué à l'issue d'un sommet au Ghana, les leaders de la CDAO ont demandé que la junte soit dissoute dès que ses dirigeants civils de la transition auront été désignés. Ils prennent acte que la transition serait de 18 mois, et non 12, comme ils le réclamaient. Les militaires maliens, dont le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, étaient présents au Ghana. En Côte d'Ivoire, l'opposition ne décolérait pas mardi contre le Conseil constitutionnel qui a validé la candidature controversée du président Alassane Ouattara à l'élection du 31 octobre et rejeté celle de ses rivaux, l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ex-chef rebelle et ancien premier ministre Guillaume Soro. Le Conseil constitutionnel a validé seulement 4 des 44 dossiers de candidature, écartant ainsi de nombreux opposants. Des échauffourées ont eu lieu mardi dans plusieurs localités et les autorités ont prorogé mardi jusqu'au 30 septembre la mesure de suspension des marches et sit-in sur toute l'étendue du territoire. En Guinée-Bissau, le chef du service des migrations, le lieutenant-colonel Alassane Diallo, a été limogé pour implication présumée dans un trafic de drogue et se trouvait mardi en garde à vue à Bissau. Il lui est reproché d'avoir en mars, alors qu'il dirigeait la brigade de recherche de la gendarmerie, couvert une opération menée par ses hommes et ayant abouti à la fuite d'un jeune Portugais d'origine bissau-guinéenne qui avait été arrêté à l'aéroport de Bissau pour trafic de drogue, selon une source à la police judiciaire. Au Japon, le Parlement a élu Yoshihide Suga, nouveau Premier ministre en remplacement de Shinzo Abe, démissionnaire pour des raisons de santé. Moyen-Orient, les tirs de roquettes des dernières heures depuis la bande de Gaza vers Israël visent à empêcher la paix entre l'État hébreu et les pays arabes du Golfe, a déclaré mercredi matin le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Monsieur Netanyahou réagissait aux tirs pendant et après la cérémonie à Washington de signature des accords de normalisation des relations entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Pour sa part, le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a mis en garde Israël contre une nouvelle escalade militaire suite aux frappes de représailles israéliennes. Le président américain Donald Trump a affirmé mardi qu'un vaccin contre le COVID-19 pourrait être disponible d'ici un mois, une accélération de ses propres prédictions déjà optimistes, mais il a ajouté que la pandémie pourrait aussi s'en aller d'elle-même. De son côté, un haut responsable chinois de la santé a dit qu'un vaccin pourrait être disponible pour le grand public en Chine dès novembre, au moment où la course continue entre les laboratoires du monde entier. L'Inde a franchi la barre des 5 millions de cas et l'Europe aborde un moment décisif avec l'augmentation du nombre de cas, la rentrée scolaire et la prochaine arrivée de l'automne, a averti mardi un responsable de l'Organisation mondiale de la santé. L'ouragan Sally s'est renforcé mercredi à l'approche des côtes du sud-est des États-Unis, menaçant de provoquer des crues historiques et potentiellement mortelles. Selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans, Sally, qui charriait des vents soufflant jusqu'à 160 km/h, a été renforcé en catégorie 2 sur une échelle qui en compte 5. Des dizaines de feux continuaient mardi à ravager l'ouest des États-Unis et les pompiers peinaient à contenir un incendie qui brûle depuis plus d'une semaine près de Los Angeles en Californie, menaçant d'engloutir un observatoire historique et de coûteuses tours de télécommunications. La suite de nos informations. Au Mali, l'ancien président Moussa Traoré est décédé mardi à Bamako à l'âge de presque 84 ans. Le général Traoré, arrivé au pouvoir à la suite d'un putsch militaire et dont le régime a été balayé à la faveur de la révolution de mars 1991, a dirigé le pays sans partage pendant 23 ans. Il avait été condamné lors de deux procès pour crimes de sang et crimes économiques avant d'être gracié par le président Alpha Oumar Konaré en 2002 vers la fin de son mandat. Kassim Traoré.
C'est le 19 novembre 1968 que Moussa Traoré est rentré dans l'histoire du Mali en participant au coup d'État qui renverse le président Modibo Keïta. Il devient le président du Comité militaire de libération nationale CMLN. Président de la République le 19 septembre 1969 et toutes les activités politiques étaient à l'époque interdites. Né le 25 septembre 1936 à Sébeto, dans la région de Kaï, Moussa Traoré est le fils d'un ancien soldat de l'armée française. Il a fait ses études à l'école des enfants de troupes de Kati, qui est devenu le prytanée militaire de Kati. Puis il rejoint l'école d'officiers de Fréjus en France en 1960. Il sort major de sa promotion. Il est ensuite nommé instructeur à l'école militaire interarmes de Kati. Du Comité militaire de libération nationale au parti unique UDPM, Moussa Traoré a dirigé le Mali pendant 23 ans de dictature. Il a été renversé le 26 mars 1991 grâce à la révolution de la même année qui a permis l'ouverture démocratique. Le général d'armée Moussa Traoré est aussi l'homme des mardis. Bien qu'il soit né un vendredi, il s'est marié un mardi. Il a renversé le régime de Modibo Keïta un mardi avant d'être détrôné un autre mardi. C'est ce mardi 5 et c'est ce mardi 15 septembre 2020 qu'il est décédé à Bamako à l'âge de 84 ans. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'ancien patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, connaîtra aujourd'hui son jugement à Paris dans l'affaire de corruption sur fonds de dopage russe. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
L'ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme est jugé pour abus de confiance et blanchiment en bande organisée. Il est reproché à Lamine Diack d'avoir permis de retarder à partir de fin 2011 des procédures disciplinaires contre des athlètes russes soupçonnés de dopage en échange de financement de Moscou. Lors de son procès en juin dernier, les procureurs ont requis 4 ans de prison et une amende de 500 000 euros contre le Sénégalais âgé de 87 ans. Il est aussi poursuivi pour avoir aidé son fils Papa Massata Diack, alors patron du marketing à l'IDJF, à s'approprier des millions d'euros dans les négociations avec des sponsors. Le fils, resté à Dakar et jugé en son absence, a refusé de répondre à la justice française, disant qu'elle manque d'impartialité. Des peines de prison ferme ont été réclamées pour 4 autres protagonistes, dont l'ancien chef de l'antidopage Gabriel Dolé, l'avocat Habib Sissé qui conseillait Lamine Diack et 2 responsables russes jugés en leur absence.
Mardi à la Maison-Blanche, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont signé un accord historique avec Israël. Le président Donald Trump a déclaré que 5 ou 6 autres pays arabes s'apprêtent à conclure des accords de normalisation de leurs relations avec l'État hébreu. Le point avec Abdourahman Dia.
Le président américain Donald Trump a évoqué à la Maison-Blanche l'avènement d'un nouveau Moyen-Orient à l'heure de la signature d'accords historiques entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Nous sommes très avancés avec environ 5 pays supplémentaires, a dit le président américain sans nommer ses États. Pour ceux qui portent les blessures de la guerre, chérissent les bienfaits de la paix, ce que nous faisons aujourd'hui est énorme. D'abord parce que cette paix s'étendra éventuellement à d'autres États arabes et elle peut mettre fin au conflit israélo-arabe une fois pour toutes. Les Émirats l'ont remercié d'avoir stoppé l'annexion des territoires palestiniens. Mais en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, des jeunes ont manifesté contre ces accords qu'ils ont qualifiés de coups de poignard dans le dos des Palestiniens.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le FMI demande à la République démocratique du Congo de la transparence dans ses contrats miniers en préalable à toute négociation pour un prochain programme d'aide. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt et son sous-sol contient de nombreux autres minerais dont le cuivre, l'or, le coltan et la cassitérite. En 2012, le FMI avait suspendu son programme avec la RDC à cause du manque de transparence dans la gestion des mines. L'opacité des contrats miniers favorise la corruption, d'après des ONG. Le Nigeria doit plus que doubler les prêts bancaires qu'il accorde au secteur agricole à 10% contre 4% au cours des 4 prochaines années pour stimuler la production alimentaire, a déclaré ce mardi le gouverneur de la Banque centrale. Le Nigeria dépend des importations, y compris des produits alimentaires, pour répondre à ses besoins en raison de sa capacité de fabrication limitée. Pour terminer, l'Organisation mondiale du commerce condamne les taxes douanières punitives que les États-Unis ont imposées à la Chine, les jugeant contraires aux règles du commerce international. L'organisation recommande que l'administration Trump rende ses mesures conformes à ses obligations. Ce cas, porté par Pékin devant l'OMC en 2018, porte sur une première tranche des droits de douane imposés par les États-Unis sur quelque 250 milliards de dollars des biens chinois. Ces tarifs punitifs ont marqué le début d'une guerre commerciale entre les deux géants économiques.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. L'attaquant gabonais d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, a signé un nouveau contrat avec le club anglais, mettant fin à un long suspense sur son avenir. Il ne restait plus qu'une année de contrat à l'attaquant de 31 ans, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2023, auteur de 29 buts en 44 matchs, toutes compétitions confondues. La saison passée, Aubameyang a fini deuxième meilleur buteur de la Premier League avec 22 buts. La saison précédente, avec ce même total, il a partagé le soulier d'or du championnat anglais avec les joueurs de Liverpool Mohamed Salah et Sadio Mané. Capitaine de l'équipe, Aubameyang va dépasser Mesut Özil et ses 380 000 euros hebdomadaires de salaire pour devenir le joueur le mieux payé du club, selon la presse britannique, sans donner le montant exact de ses revenus. De son côté, le milieu de terrain de l'Apollon Limassol, le Togolais Serge Baquet, a signé un contrat d'une saison avec le club chypriote. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel va se pencher ce mercredi sur les 5 cartons rouges distribués à la fin du Classico remporté dimanche par Marseille contre le Paris Saint-Germain, 1-0. Le joueur vedette du PSG, Neymar, a accusé un adversaire d'injures racistes. Le club a soutenu son attaquant qui fait partie des 5 exclus. Les membres de la commission indépendante sont chargés de déterminer le nombre de matchs de suspension encourus par les Parisiens, Neymar, Levin Kurzawa et Leandro Paredes, et par les Marseillais Dario Benedetto et Jordan Amavi, tous exclus dans le temps additionnel à l'issue d'un début de bagarre. Selon le barème disciplinaire de la fédération, un joueur se rendant coupable d'un acte de brutalité peut être puni jusqu'à 7 matchs de suspension si celui-ci intervient en dehors d'une action de jeu sans entraîner de blessure. Basketball, Nick Nurse, désigné entraîneur de l'année en NBA, a prolongé son contrat avec les Toronto Raptors 4 jours après avoir été éliminé en demi-finale des playoffs NBA par les Boston Celtics. Nurse s'est engagé pour une prolongation pour plusieurs années, a indiqué le club canadien. Sans donner plus de détails, la saison passée, sa première à la tête de l'équipe fut couronnée du premier sacre de l'histoire de la franchise aux dépens des Golden State Warriors. Les Raptors ont effectué une excellente saison régulière, finissant à la deuxième place de la conférence Est avec un bilan de 53 victoires et 19 défaites, le meilleur pourcentage de victoires de leur histoire, 73,6%. En play-off, ils ont atteint les demi-finales pour la 5e saison consécutive, mais dans la bulle de Disney World, ils ont dû céder au 7e match d'une série très serrée avec les Celtics.
Jeudi, dans À votre avis, votre émission débat à 18h05, temps universel sur VOA Afrique, nous allons évoquer la pandémie de coronavirus. Comment cette pandémie a-t-elle impacté votre vie, votre quotidien? Les prix ont-ils augmenté sur les marchés, dans les magasins? Avez-vous été touché dans votre travail ou dans vos recherches d'emploi? Venez en discuter dans À votre avis à 18h05, temps universel sur l'antenne de VOA Afrique. Laissez-nous vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique et nous vous rappellerons. Les débats sur VOA Afrique, c'est tous les jours dans À votre avis à 18h05, temps universel.
aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'ancien président du Mali, Moussa Traoré, est décédé. Il avait dirigé ce pays d'une main de fer jusqu'à son renversement par Amadou Toumani Touré après une révolte des jeunes. Eric Panirakidza a joint Chérif Keïta, un Malien qui enseigne à Carleton College dans le Minnesota.
Tout d'abord, je m'incline devant donc sa dépouille et je transmets mes condoléances à sa famille, à ses amis et au peuple du Mali parce que bon, il a été un président donc de mon pays et pour cette raison-là, je m'associe à cette douleur. Mais ce que je retiens donc du régime de Moussa Traoré, qui a commencé pendant mon adolescence et qui perdurait encore jusqu'à mon âge adulte, 23 années de règne, c'est vraiment la stagnation et même le recul du pays par rapport même au régime de Modibo Keïta, qui voulait instaurer une économie socialiste, mais qui avait connu pas mal de ratés en 1968 et que Moussa Traoré a renversé. Donc le régime de Moussa Traoré a marqué le recul du Mali au niveau des libertés civiques et aussi au niveau de l'économie et surtout, moi en tant qu'enseignant, je lui reproche d'avoir présidé au dépérissement et à la déliquescence de l'école au Mali. Parce que c'est sous lui que les enseignants ont été marginalisés. Souvent, ils n'étaient pas payés pendant 6 mois. Ils travaillaient sans être payés pendant 6 mois. Et c'est pendant cette période que l'enseignant a été dévalorisé aux yeux de la société. Cet acteur social qui était le porteur vraiment de la modernité et de tous les espoirs du développement pour mon pays, a été littéralement liquidé sur le plan social pendant les 23 années du règne de Moussa Traoré. Et jusqu'ici, nous essayons de nous remettre de cela. Et malheureusement, aucun des régimes qui est venu après lui n'a pu redresser la barre.
C'était quel genre de personnalité ?
Il a été un dictateur, il faut le dire. Il a été un dictateur qui, vers la fin de son règne, a essayé de créer un standard de démocratie en fondant un parti qui s'appelait Union démocratique du peuple malien. Mais ce parti n'avait rien de démocratique. Et c'est d'ailleurs pour ça que les contestations se sont exacerbées et qu'il a été renversé en 1991. Et en réalité, très peu de gens l'ont regretté.
Quelque chose de positif pendant 23 ans de pouvoir?
Très peu de choses positives, je dirais. Peut-être que quelqu'un d'autre aura un autre avis, mais moi personnellement, je ne trouve pas grand-chose de positif au régime de Moussa Traoré.
Chérif Keïta, un Malien qui enseigne à Carleton College dans le Minnesota. À présent, Youssouf Sissoko, journaliste à Bamako, fait au micro de Modibo Dambélé une rétrospective sur le parcours et la biographie de Moussa Traoré.
Moussa Traoré, en fait, c'est effectivement l'ancien président qui a pris le pouvoir le 19 novembre 1968 en renversant le régime de Modibo Keïta. Il a régné en tout cas pendant 23 ans à la tête du Mali. Il a été lui-même renversé le 26 mars 1991 par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré. Alors il a fait la prison et il a été libéré. Et de sa libération jusqu'à nos jours, il est vraiment devenu en tout cas une personne ressource dans le pays, puisque tous les présidents anciens comme nouveaux le consultaient, en tout cas pour les questions majeures du pays.
Et avec la mort de Moussa Traoré aujourd'hui, est-ce que cela va être un handicap, surtout au moment où le Mali est à une phase critique de son histoire?
Oui, effectivement, ça va être un sérieux handicap parce qu'on a quand même remarqué ces derniers temps que Moussa Traoré était un peu au four et au moulin parce qu'on le consultait, il donnait son avis, que ce soit sur la crise du Nord et que ce soit sur la crise sociopolitique. Il a toujours donné son avis et franchement, il a toujours en tout cas donné un bon avis et les gens étaient d'accord en tout cas avec lui. Donc sa disparition va laisser quand même un vide énorme dans le pays.
Youssouf Sissoko, journaliste à Bamako, au micro de Modibo Dambélé.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Le personnel médical traitant des patients atteints de Covid-19 est soumis à rude épreuve. De nombreux travailleurs de la santé ont recours à des thérapies pour ne pas sombrer dans la dépression. Au Kenya, des médecins assistent à des séances de conseil afin de surmonter le stress et les traumatismes liés à la lutte contre le coronavirus. Reportage de Mohamed Youssouf, relaté par Nathalie Barge.
John Mwichuyo est un psychologue qui prend en charge des patients atteints de la maladie COVID-19 à Nairobi. Fin juillet, il a été testé positif, comme plus de 700 travailleurs médicaux kényans.
As a human being, also, I'm also thinking aloud that I'm positive.
En tant qu'être humain, je pense également que si je suis positif, que se passera-t-il ensuite? Et si la mort venait? Ce n'est pas facile, c'est un état très traumatisant, surtout de vivre seul. Vous ne pouvez pas le dire aux gens parce que vous ne savez pas comment ils le prendront.
Ce psychologue a assisté, avec une cinquantaine de médecins du centre de traitement de l'hôpital de Tigoni, à des séances thérapeutiques pendant un week-end. Sa collègue Marie Waweru s'est aussi résolue à demander de l'aide après avoir évité sa famille pendant des mois en raison de son travail.
Je me voyais comme un virus qui pourrait infecter mes enfants, mon mari, et même ma mère et mon père. Alors je me suis complètement détachée. Puis il y a eu cette fois où ma fille m'a attendue la nuit. J'étais rentrée à 23 heures. Alors elle m'a demandé, « Maman, tu ne nous aimes plus ?» Ça m'a frappée.
Simon Djunguna, un agent de santé publique, affirme que la formation lui a permis de faire abstraction de la situation.
Nous avons vécu beaucoup de choses. Les horaires ont changé. Nous avons été très occupés. Donc, passer une journée de congé durant laquelle vous vous amusez en oubliant qu'il y a le coronavirus, c'est très rajeunissant.
Njeri Njunguna, clinicienne au Tigoni COVID Center, affirme avoir retrouvé son énergie grâce à cette thérapie de groupe.
Je me sens un peu plus légère, je me sens très soulagée. J'ai l'impression d'avoir acquis la force de continuer mes tâches quotidiennes.
Iregi Wenja, expert en psychiatrie, était l'organisateur de cet événement de deux jours sur la santé mentale.
Beaucoup de ces petits traumatismes finissent par s'accumuler. Et cela peut être vraiment pénible au plan psychologique. Alors, nous avons décidé de venir ici et de passer une journée de thérapie expressive en créant des liens et en prenant du plaisir à travers des jeux. Ce fut une journée pour que les gens de santé se sentent aimés et appréciés.
Selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui suit les cas de COVID-19 dans le monde, le Kenya compte plus de 36 000 cas confirmés et plus de 620 décès.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, Israël normalise ses relations avec deux pays arabes, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, sous l'égide de Washington. Jusque-là, l'Égypte et la Jordanie étaient les seuls pays arabes à entretenir des relations diplomatiques avec l'État hébreu, la question palestinienne étant le principal obstacle. Que signifient ces derniers accords de normalisation pour la région et les États-Unis? Qu'en est-il de l'Afrique quant au conflit israélo-palestinien? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Signature ce mardi à la Maison-Blanche d'accords de normalisation entre Israël et deux autres pays arabes, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Ce développement important dans la région est aussi une victoire diplomatique majeure pour les États-Unis qui ont poussé pour la réalisation de ces accords. Mais les Palestiniens parlent de coups de poignard dans le dos de la part des pays arabes signataires. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Montréal le professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, Jamal Abdullah.
Déjà, il y a un angle très important, c'est l'angle du droit international. Et ici, le droit international, il donne toute la possibilité aux pays souverains comme les Émirats Arabes Unis et Bahreïn a signé un accord avec un autre État, aussi membre de Nations Unies. Donc ça a quelque chose de très assuré par le droit international. Par contre, il y a aussi une partie politique dans cette affaire. Et cette partie politique, c'est un engagement qui était fait, en fait, de la part des Émirats Unis et de Bahreïn et d'autres pays arabes, tous les 22 pays arabes qui font partie de la Ligue des États arabes. C'est l'initiative présentée en 2002 par le roi Abdullah, l'ancien roi de l'Arabie Saoudite, pour faire la paix avec l'État d'Israël. Donc, effectivement, actuellement, les autorités palestiniennes regardent cet accord comme un coup dans le dos.
Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres pays qui vont suivre, des pays comme l'Arabie Saoudite?
Bien, écoutez, les Émirats, il a ouvert cette porte, si vous voulez. Donc, le Bahreïn, il a suivi. Je pense qu'il y a d'autres pays, effectivement, d'autres pays arabes. Et je vais un petit peu loin, ça veut dire que je vais sortir de la cycle de pays arabes pour un petit peu grandir le cycle et aller plus loin sur les pays du monde musulman. Si on parle de l'Organisation de coopération islamique qui contient 57 pays, je pense qu'il y a d'autres pays musulmans qui vont signer avec l'État d'Israël d'ici à la fin de cette année. Oui. Moi, je ne pense pas que l'Arabie Saoudite il va signer un accord de paix, au moins à la présence du roi actuel de l'Arabie Saoudite, le roi Salman, qui d'ailleurs c'est une personne âgée, qui a 84 ans. Mais on ne sait pas, après l'arrivée au pouvoir du prince héritier MBS, Mohammed bin Salman, c'est le fils du roi actuel, si les affaires ils vont changer.
Et justement, parlant de l'Iran, est-ce que vous pensez que ces nouveaux développements, ces nouveaux accords isolent de plus en plus Téhéran?
Isolent, oui, mais à la fois, il va en fait faire une sorte de instabilité dans la région. Parce que moi, je lis l'accord entre les Émirats Arabes Unis et Israël, et le Bahreïn Israël. C'est comme une création d'une nouvelle coalition, si vous voulez, dans la région. Alors, la présence éventuelle d'Israël sur la côte ouest de la mer de Golfe, ça va poser un problème dans l'avenir.
C'était le professeur Jamal Abdallah, spécialiste du Moyen-Orient.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal. Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seludia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.